la CBC à Don Cherry.
Bonjour, Molly Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Monsieur Lavigne, bonsoir.
Bonsoir, Dan.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi-même.
Oui, je commencerai par ton premier employeur, évidemment, ton deuxième étant l'avant-match. Pas à 50-50. Je comprends que en termes de revenus sur le T4, c'est beaucoup plus important, le Cégep Garneau, que l'avant-match, mais on apprécie quand même ta présence chaque semaine. J'espère que c'est réciproque. Le Cégep Garneau, Éric, l'équipe de football va participer au Bol d'or. Après, je dirais, sans être méchant, quelques années difficiles et même un début de saison difficile, je te demanderais d'entrée de jeu, est-ce que les élans de cette année, c'est un peu comme les Golden Knights de l'an passé au hockey, une équipe surprise?
Une équipe surprise, oui, dans le sens que l'an passé, ça avait été une année difficile. Les deux dernières années avaient été plus difficiles, ce qui fait en sorte qu'on sait que dans le football, c'est souvent des cycles. Puis on le dit souvent dans le football collégial d'être un peu... tu dépends un peu aussi des blessures en fonction du genre de profondeur que tu peux avoir. On avait été très malchanceux dans les dernières années, dans le sens qu'on avait perdu des joueurs à des positions clés. Là, cette année, on a été beaucoup plus en santé. On a eu un bon début de saison. On s'est toujours tenu en haut de 500, ce qui a fait en sorte que le niveau de confiance s'est rapidement installé dans l'équipe. Puis plus la saison avançait, on voyait que Coach Juneau préparait son équipe pour les séries éliminatoires, pour du football très serré quand elle est arrivée, séries éliminatoires. Puis c'est ce qui est arrivé avec deux grosses surprises. On avait joué en haut de 500 dans l'année, 5 victoires, 4 défaites, ce qui nous avait placé en 5e position sur 10 équipes. Puis on est allé causer deux grosses surprises là, en battant Lennoxville, puis la semaine dernière, Vieux-Montréal. C'est que c'est tout à fait mérité là, que notre équipe de football de Garneau se retrouve au Bol d'or là, samedi après-midi.
Samedi après-midi, 15h, ce sera sur le terrain de André Grasset, qui compte sur un carrière surdoué. Je pense que les deux équipes s'étaient affrontées à Garneau en début de saison, au mois de septembre, hein?
Oui, s'étaient affrontées à Garneau. Ça fait deux fois que le jeune Sénécal joue à Garneau l'an passé puis cette année, et tu vois à quel point c'est un joueur... Moi, l'an passé, je l'ai vu jouer pour la première fois. J'en revenais pas de voir un si jeune joueur avec autant de talent. Cette année encore plus, avec de la maturité, il est puissant, il est précis, il est fort comme un cheval, il est capable de courir. Pour moi, là, au Québec, c'est le meilleur corps arrière dans le collégial, mais pour moi, c'est le deuxième meilleur corps au Québec. Après Hugo Richard, qui est au niveau universitaire, s'il jouait pour n'importe quelle équipe universitaire, à mon avis, il serait le deuxième meilleur corps arrière avec Richard, qui est à sa 5e année. C'est que c'est pas peu dire de le voir jouer. C'est impressionnant, mais ça rend le défi encore plus intéressant pour notre équipe. Puis je pense que toute l'équipe va être très, très intéressée et très affamée de justement essayer de prouver défensivement qu'on peut jouer contre ce gars-là.
On dit du jeune Sénécal qu'il est même au Cégep. Des gens qui suivent ça plus que moi, Éric, j'abonderais dans ce que tu viens de dire, qui est très intéressant. Quand tu dis que c'est le deuxième meilleur quart au Québec derrière Hugo Richard, on dit qu'au niveau collégial, c'est le meilleur à avoir joué au Québec dans les 10 dernières années.
Il n'y a pas de doute. J'avais vu Hugo Richard avec Vanier contre Garneau, justement, mais je l'avais vu jouer un ou deux matchs. C'est qu'on voyait qu'il avait du talent, puis il avait amené son équipe au Bol d'or, chose que Sénécal n'a pas encore faite, puis qu'il va essayer de faire en fin de semaine. Mais s'il y a beaucoup de ressemblances, mais Sénécal a un physique là, tellement impressionnant, on dirait qu'il est bâti pour jouer du football professionnel. Puis c'est spectaculaire de le voir jouer. C'est spectaculaire de le voir jouer dans un match collégial, mais ce que j'aurais le goût de dire à nos joueurs, puisque le coach a sûrement transmis, parce qu'on a souvent parlé avec le coach, ben c'est une chance de nos joueurs d'avoir la chance de jouer contre un joueur comme celui-là.
Oui.
Parce que tu veux montrer que tu es capable d'affronter les meilleurs, puis tu veux essayer de faire le gros jeu contre le meilleur, puis ça, c'est intéressant, puis c'est ce qui va rendre le défi encore plus le fun samedi.
Éric, est-ce que le rendement des élans de cette année, le fait que vous vous rendiez au Bol d'or, est-ce que ça donne... une meilleure chance pour le recrutement pour l'an prochain? Est-ce qu'automatiquement, les jeunes qui sortent du secondaire regardent votre feuille de route avant de choisir leur cégep?
Ah, il n'y a aucun doute. Il y a toute une question de confiance là-dedans envers l'organisation. Puis quand les joueurs voient au niveau de notre coaching staff, le personnel d'entraîneur qui est très, très axé, oui, sur le football, mais aussi sur la réussite académique puis sur le développement de la personne de nos joueurs, c'est que quand nos coachs rencontrent les parents, quand nos joueurs rencontrent les jeunes, le fait en plus d'avoir une fiche positive, ça vient aider. On sait qu'à Garneau, on vient de refaire les installations complètes. L'équipe de football a un vestiaire flambant neuf avec sa salle d'entraînement qui est annexée au vestiaire. C'est que c'est toutes les infrastructures qu'il y a à Garneau avec notre superbe terrain. T'ajoutes à ça une fiche gagnante. T'ajoutes des entraîneurs d'expérience qui sont là depuis plusieurs années. Mais c'est sûr que plus tu vas loin, plus les jeunes n'entendent parler. Puis le recrutement commence la semaine prochaine. Puis c'est très encourageant de savoir qu'il y a plusieurs jeunes qui vont vouloir venir jouer à Garneau dans les prochaines années.
Super. OK, dans le hockey de la Ligue nationale, là, j'ai une question pour toi comme entraîneur. Cette semaine, le coach McLellan à Edmonton a jumelé Draisaitl à McDavid contre le Canadien. Ça a donné des flamèches. Si Draisaitl avait été moindrement opportuniste, il aurait marqué 7 buts dans ce match-là. Finalement, il est fini avec 1 but, 2 passes. Comme entraîneur, toi, Éric, est-ce que tu es du genre... Quand tu as juste 2-3 bons éléments en attaque, c'est sûr que si tu es pacté, ben, tu peux te faire 2-3 bonnes lignes, là, mais est-ce que tu es du genre à regrouper tes meilleurs éléments ou à les équilibrer?
Ben, quand un club gagne pas, puis tu as un gars comme McDavid, faut que tu y trouves quelqu'un qui va compléter ses jeux l'autre soir. Là, c'était incroyable la qualité du jeu que McDavid donnait. On n'a pas la chance de le voir jouer assez souvent parce qu'il joue souvent trop tard le soir. Mais quand on voit un match comme l'autre soir, puis de quelle façon il a fourni, tu sais, ça me fait penser dans les années de Semenko, dans les années de Young qui jouait avec Gretzky et Lemieux et compagnie. Il faut que tu trouves un gars qui peut marquer des buts avec. Mais quand tu as la chance d'avoir un one-two punch, puis un gars qui complète ton meilleur joueur, moi j'ai le goût de les mettre ensemble. C'est un hockey où il faut que tu prennes l'avance. C'est un hockey qui est totalement différent quand tu es en avance dans le pointage. C'est quand tu es en avance dans le pointage, ton équipe joue de façon différente. T'oblige l'autre équipe à ouvrir le jeu. C'est que plus vite t'es capable de marquer un but d'un match, plus vite t'es capable d'amener de l'offensive, plus vite tu mets l'autre équipe sur les talons et ça change totalement le match. Un club comme Canadien, l'autre fois, était pas capable de fermer le jeu parce que fallait que tu joues du hockey de rattrapage et puis fallait que tu cours après McDavid. C'est que quand t'as ces gars-là, moi j'ai le goût de les jumeler ensemble puis j'ai le goût de mettre l'offensive ensemble pour justement mettre le momentum de ton côté parce que c'est trop important dans l'hockey d'aujourd'hui.
Hier soir à Denver, deux des meilleurs trios de la Ligue nationale depuis le début de la saison s'affrontaient. Pastrnak, Marchand et Bergeron contre Rantanen, Landeskog et MacKinnon. Est-ce que comme entraîneur qui a le dernier changement, tu as tendance à opposer ton meilleur trio au meilleur l'autre côté dans la mesure où le joueur de centre n'est pas Patrice Bergeron? Mettons que mon exemple d'hier n'est pas bon parce que tu dis Bergeron est tellement bon défensivement qu'il va tellement neutraliser MacKinnon que je ne sors pas gagnant. Mais si tu étais le coach de l'Avalanche, tu mets-tu meilleur contre meilleur ou tu attends qu'il mette un trio un peu moins bon pour envoyer tes trois kingpins?
Moi, j'aimais jouer force contre force.
OK.
J'aimais jouer le meilleur trio contre le meilleur trio, sauf quand tu te mets à tirer de l'arrière. Quand tu te mets à tirer de l'arrière, là, tu essaies de frapper contre un troisième trio. Tu essaies surtout de frapper. Moi, je trouve que c'est moins important. Quand tu as un gros trio comme ça, c'est pas tellement important contre qui tu joues à l'attaque. C'est important de placer ton trio contre une paire de défenseurs plus faibles. Parce que oui, tu veux matcher, excuse-moi l'expression, de mettre meilleur trio contre meilleur trio. Mais quand tu coaches, ce que tu travailles surtout, c'est de dire à ton coach des défenseurs, assure-toi de mettre ta première paire contre le gros trio de l'autre bord. C'est comme entraîneur qui travaillait avec les attaquants, j'étais beaucoup plus préoccupé de dire, je vais essayer d'enlever la meilleure paire de défense de l'autre bord face à mon meilleur trio. Parce que attaquant contre attaquant, à moins, comme tu viens de le dire, d'avoir un Patrice Bergeron qui, là, est exceptionnel défensivement, mais tu es en mesure de dire, c'est quoi je veux? Exemple, quand Weber est dans l'alignement, quand il y a une bonne paire de défenseurs, tu dis, mais McDavid, j'ai peut-être pas le goût de le jouer contre le meilleur trio, m'a peut-être essayé de le jouer contre Schlemko. C'est là que le coaching rentre en ligne de compte. Les coachs font pas nécessairement une maladie. Oui, tu commences, puis tu le marques sur le tableau, puis avant le match, tu dis, on va essayer de mettre tel trio contre tel trio. Mais au-delà de tout ça, souvent, plus la saison va avancer, surtout dans les séries, un coach va dire, on veut s'assurer d'avoir tel trio contre une paire de défenseurs un peu plus faibles.
OK. Le Canadien s'en va dans l'Ouest pour 3 matchs. Edmonton mardi, Calgary ce soir, Vancouver samedi. Éric, est-ce que les voyages dans l'Ouest ou ailleurs, là, quand tu sais que tu fais 3-4 matchs, ça peut être au Minnesota, puis à Saint-Louis, puis à Columbus, là, ça n'a pas rapport dans l'Ouest, mais est-ce que c'est important comme entraîneur d'organiser des activités d'équipe où les gars s'en foutent un peu puis veulent avoir la paix puis s'en aller dans le chambre d'hôtel?
Ah, mais comme ils sont là c'est 3 matchs en 5 jours dans l'Ouest, ils sont partis pour un voyage de 6 jours, t'as pas le temps d'organiser trop de choses. Je pense qu'il faut surtout un voyage comme ça où tu joues deux soirs. Quand il y a beaucoup de jours de, entre les matchs, peut-être que tu peux te le permettre. Mais là où ce que tu as six jours pour jouer trois matchs, ce que tu veux voir, c'est bon pour les coachs de voir qui se regroupe avec qui, c'est quoi les affinités, qui va souper ensemble au restaurant, qui sera ensemble à l'aréna, qui se tient ensemble à l'hôtel. Ça t'apprend, surtout au mois de novembre, là, ça t'apprend beaucoup à connaître scolaire ton équipe. Okay. Les activités à ce temps-ci de l'année, ça a souvent lieu au camp d'entraînement. Avant que la saison commence, tu as eu des activités de team building. Mais un coup que l'année commence comme ça, surtout un premier voyage dans l'Ouest, tu dis on a trois matchs, on veut voir la cohésion de l'équipe, puis c'est une bonne façon, puis dans ce temps-là, souvent, tu vas dire à ton trainer, tu vas dire à ton physiothérapeute, à ton gérant d'équipement, essayez d'observer les gars. Tu fais souvent un constat au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, c'est souvent là que tu commences à avoir des clics, parce que t'as plus l'excitation du début de l'année, t'as un petit peu la fatigue avant la pause des fêtes, c'est que tu vas souvent voir, il est en train de se créer des clics dans l'équipe, tu vas voir les bougonneux se tenir ensemble, tu vas voir, ça va te permettre de voir, y a-tu des gars qui sont un petit peu négatifs, puis qui peuvent contaminer les autres, c'est une parfaite façon d'un voyage comme celui-là, d'avoir une photographie de ton équipe, à savoir sur la dynamique de ton équipe, et comme coach après ça, quand tu reviens de ce voyage-là, t'évalues pas juste ce qui s'est passé au hockey. T'essaies de faire le constat, puis tu t'assois avec ton gérant, puis tu dis, OK, voici quel genre d'équipe qu'on a, voici la dynamique qu'on a, voici la chimie qu'on a, et y a-tu des éléments qu'il faut ajouter ou qu'il faut enlever pour faire en sorte que la cohésion, puis la fameuse attitude qu'on parle beaucoup à Montréal, va faire en sorte qu'on va être capable de partir sur notre aire d'aller après les fêtes, parce que c'est souvent au mois de novembre que tu vas analyser ton équipe.
L'année dernière, Éric, il n'y a eu aucun congédiement d'entraîneur dans la saison. Cette année, il y en a deux, puis on est rendu seulement à la mi-novembre. Est-ce que ça s'explique?
Mais c'est des vagues. Hein? L'an passé, il n'y en a pas eu. Ça veut dire que, comme il n'y en a pas eu l'an passé, il y avait des gars qui étaient sur le edge cette année. On prend comme Kenville. Beaucoup de monde se sont posé la question l'an passé. Ils vont-tu le congédier? Ils ont décidé de ne pas le congédier. Ils ont commencé l'année en jouant 500. C'est qu'ils ont décidé de prendre cette décision-là. C'est arrivé la même chose dans deux, trois équipes. C'est que le fait qu'il n'y en avait pas eu l'an passé, fallait s'attendre à ce qu'il y en ait cette année, en début d'année, parce qu'il y a des équipes qui ont dit, OK, on donne une autre chance pour repartir l'année, on donne une autre chance aux gars d'avoir un bon début de saison, on donne le bénéfice du doute, puis on dit, on repart page blanche après l'été, mais un coup que l'été est fini, puis tu repars pas avec des résultats, c'est plus vrai que la page blanche était là, parce qu'il en restait un peu de zone grise dedans, puis c'est pour ça que la deuxième année, t'es moins patient. Dans ce monde-là, aujourd'hui, tu peux plus avoir deux mauvaise saison consécutive parce que tu penses qu'il faut que tu brasses la soupe et créer un électrochoc. Puis c'est l'option la plus facile de tasser le coach.
Tom Wilson est revenu cette semaine après une suspension réduite de 20 à 14 matchs. Le premier match qu'il joue, c'est contre Minnesota. Il s'en va en zone adverse puis il entre en contact de façon volontaire avec le gardien Devin Dubnyk. Comme entraîneur, est-ce qu'il y a moyen de raisonner Tom Wilson ou il va être comme ça pour le restant de sa carrière?
Ça venait dans ton bureau, tu y en parles, puis il te répond, j'ai scoré, coach. Quand je suis rentré au filet, j'ai compté un but quand j'ai chargé le devant du but. C'est que tu le changeras pas. C'est le genre de gars, ça, que il y a une seule façon de jouer, puis t'as espoir qu'il va pas se mettre dans une situation inconfortable. T'oses croire quand même que le coach j'oserais avec, puis j'oserais avec. C'est juste le gars qui peut réaliser à un moment donné, j'arrête tout, j'arrête pas. Tu regardes, là, des récidivistes, il y en a tout le temps, puis on dirait qu'ils se corrigent jamais. C'est que t'as beau avoir n'importe quel coach, puis t'as beau t'asseoir avec le gérant, puis essayer de se faire des menaces, t'as des gars comme ça qui vont toujours être à haut risque d'être dans le domaine des suspensions, d'être dans le domaine d'être surveillé par l'entraîneur, puis de rester dangereux. C'est que malheureusement, je te le dis, d'ici à la fin de l'année, il va y avoir une couple de mises en échec qui vont te faire sursauter, puis qui vont faire en sorte que tu vas parler dans ton émission, parce que tu vas dire, coudonc, il comprend rien. Mais non, il embarque sur la glace, puis on dirait que ces gars-là, à un moment donné, n'ont même pas conscience et réalisent même pas la dangerosité qu'ils ont sur la glace.
Éric, ce soir à Drummondville, c'est le sixième et dernier match de la série des Russes contre les équipes du hockey junior canadien. Pour ou contre la série contre les Russes?
Je suis pas un grand fan, là. Je l'ai coaché deux fois, cette série-là. Je suis pas un grand fan pour une raison, c'est je suis pas sûr que les matchs servent vraiment à faire l'équipe canadienne. C'est plus ça qui me dérange. C'est pas le fait que, un, ça fait une pause dans la saison, puis ils ont déjà de la misère à mettre des matchs. Ils trouvent qu'il y a trop de matchs, puis t'arrêtes quasiment une semaine de jouer. C'est que si t'avais pu mettre deux matchs ou un match dans cette semaine-là, tu n'enlèverais. Mais c'est plus que, Moi, je trouve souvent que l'équipe est un peu faite sur papier d'avance. Puis à moins d'une performance absolument extraordinaire, moi, je crois beaucoup au fait que il y a un groupe de recruteurs qui fait l'équipe, puis tu te trompes pas bien quand tu vois l'équipe sur une longue séquence, puis tu parles aux entraîneurs. Fait que je pense pas que ce soit vraiment nécessaire pour faire la sélection, puis ça coûte terriblement cher aussi pour organiser ces matchs-là. C'est que je suis pas, même si j'ai eu du plaisir à le coacher deux fois, c'est plaisant parce que c'est genre comme si tu coachais un match d'étoiles. C'est ça qui est le fun, d'avoir la chance de côtoyer les meilleurs joueurs des autres équipes. Mais je suis pas un grand fan par rapport à ce que ça va rapporter pour Équipe Canada Junior.
Parfait. Un gros merci, Éric. Bonne soirée à toi.
Merci, Dan.
À bientôt. Éric Lavigne, chroniqueur du jeudi soir dans l'avant-match, lui-même ancien entraîneur pendant une vingtaine d'années à différents niveaux.